Françaises, Français, Charlotte, Charlot.
Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour.
Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux coucou. Oui, oui, je le sens bien. Ce n'est plus, oh non, ce n'est plus le moment de rire. Je la devine dans tous ces regards de Clermont-Fernand et de Clermont-Fernand. Mesdames et messieurs, vous vous dites, mon Dieu, est-ce qu'il va nous donner la fameuse recette du cheval Melba? Eh bien oui, le secret de Trois Gros, le succulent cheval Melba, en voici la recette. Tout d'abord, il faut savoir, et monsieur Trois Gros, ici présent, vous le confirmera, chaque grande recette de cuisine a une origine historique qui vaut d'être comptée. Le cheval Melba. Au siècle dernier, le duc Jean-Éderne Poirot d'Elpèche Melba vivait en concubinage avec son cheval, qui s'appelait Reviens, il avait peur qu'on lui pique. Le cheval, ce fier bestiau qui est la plus noble conquête de l'homme. Tu parles. Vous savez pourquoi l'homme aime le cheval? Parce que le cheval ne se révolte pas quand des nains bariolés lui balancent des coups d'éperon dans le bide tous les dimanches pour enrichir les connasses emperlousées avec les primes d'allocation familiale des chômeurs. Ça s'appelle le sport national français. Donc le cheval du duc portait toujours un collant qui lui maintenait les prunes dans les courses de haie. Je te préférerais avec débat, lui dit un jour le duc qui était obsédé, ou alors dit tout de suite que c'est moi. Nenni, dit le cheval, car le cheval nenni. De même que la caille carcouille, que la huppe pullule et que le loup glapit. Mais le bas, insistait le duc. Et comme le cheval refusait toujours, il le tua et le méchant duc le mangea, mais de toute façon, il n'aurait pas eu beaucoup d'enfants, et voilà, bonne nuit les petits. Vous reprenez votre crayon et vous notez. Pour bien réussir le cheval Melba, prenez un cheval, un beau cheval. Le poil doit être lisse, c'est un signe de bonne santé. L'œil doit être vif, éveillé, et on doit y sentir dans cet œil de cheval ce regard indéfinissable, plein de tendresse débordante et de confiance éperdue dans l'homme, dont ces cons d'animaux ne se départissent habituellement qu'aux portes des abattoirs. Donc prenez un cheval, un beau cheval, comptez environ 800 kilos pour 1200 personnes. Pendant que le cheval cherche à enfouir son museau dans votre cou pour un câlin, foutez-y un coup de burin dans la gueule. Attention, sans le tuer complètement, le cheval c'est comme le homard ou le bébé phoque, faut les cuire vivants pour le jus, c'est meilleur. Bon, vous réservez les os et les intestins pour les enfants du tiers-monde. Débarrassez ensuite la volaille de ses poils, crinières, sabots et de tous ces parasites qui pullulent, les poux, les puces, les jockeys, etc., etc. Réservez les yeux, mettez-les de côté, vous les donnerez à bébé pour qu'il puisse jouer au tennis sans se blesser, car l'œil de cheval est très doux. Préparez pendant ce temps votre courbouillon avec sel, poivre, thym, laurier, un oignon, un clou de girofle, persil, pas de basilic, une carotte et un mérou qui vous indiquera en explosant à la fin de la cuisson un peu vif. Oui, c'est exactement comme pour la recette du chat grand veneur. Quand le chat pète, le mérou boue et quand le chat boue, le mérou pète. Ça y est, je l'ai dit. Quand l'eau commence à frémir, le cheval aussi. Attention, s'il est rouge, c'est un homard. Si le cheval se sauve, faites-le revenir avec une échalote. Dans une cuillerée à soupe d'huile d'olive, ou si c'est un cheval arabe, dans une cuillerée d'huile d'arachide. A l'aide d'une écumoire, chassez le naturel. S'il revient au galop, c'est que vous avez vraiment mal ajusté votre coup de burin. Il faut toujours vérifier l'assaisonnement et pan dans la gueule. À mi-cuisson, passez au chinois. Si vous n'avez pas de chinois, passez au nègre. Éteignez la cuisson, mais ne sortez pas encore le cheval Melba de la casserole. Laissez-le mariner là. Pour accompagner cette délicieuse recette, je vous conseille un Saint-Émilion léger, un Corbin Michotte. Surtout pas d'eau, jamais d'eau avec le cheval Melba. Et j'en profite d'ailleurs pour préciser un peu ma pensée. Il y a quelques jours, j'ai parlé ici d'un livre qui dénonçait les méfaits de l'eau. Je parlais de deux livres. L'un s'appelait « Faut-il euthanasier les aquaphiles ?» aux éditions La Fond La Caisse. Et l'autre « La mort sort du robinet » aux éditions La France Empire et La Cirrhose aussi. Et puisque vous insistez, voici pour finir un court extrait de ces derniers ouvrages. C'est très important parce qu'il ne faut jamais, pratiquement jamais boire de l'eau, sauf vraiment dans les cas très très graves. Alors, qu'est-ce qu'un aquaphile d'abord? L'aquaphile, c'est un être asocial. À première vue, il a l'aspect d'un homme normal. Mais quand on lui présente un verre de Pauillac 47, il le repousse et réclame un verre d'eau. Ceci constitue à l'évidence une manifestation de démence aiguë. En effet, une analyse approfondie d'un verre d'eau m'a permis de constater avec effarement que ce liquide est exclusivement composé d'oxygène et d'hydrogène. Deux produits chimiques extrêmement dangereux, car l'hydrogène brûle et l'oxygène gêne. En s'adonnant ainsi à l'eau, mesdames et messieurs, l'aquaphile se conduit comme une bête, pire, comme une plante, son comportement évoquant assez fidèlement celui de l'anémone, à cette différence près que l'anémone boit par la queue. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne parle pas de l'ex-présidente de la République, je parle de la fleur. Qui est aquaphile en 82? D'après les chiffres de l'INSEE, 40% des communistes et 75% des membres du fan club de Julio Iglesias sombrent régulièrement dans l'eau en carafe à la recherche vaine d'on ne sait quel paradis artificiel. Je dis paradis artificiel car en effet, que reste-t-il? Une fois dissipé, la fugace euphorie qui accompagne l'absorption du verre d'eau. Rien d'autre que l'insupportable angoisse d'une nouvelle journée qui commence sans amour, sans joie, sans chaleur humaine, bref, sans pinard. L'aquaphile est-il un malade ou un criminel? Eh bien, on peut affirmer avec certitude que les plus grands criminels de l'histoire du monde, d'Attila à Pierre Desgroupes, ont été ou sont de grands buveurs d'eau. Ravaillac, les dernières paroles de Ravaillac avant de mourir écartelé, ont été « Donnez-moi un verre d'eau, je sens que je vais craquer ». Hitler avalait quelquefois jusqu'à 5 litres d'eau par jour. D'accord, c'était pas un grand criminel, mais comme peintre, n'était-il pas nul? Si, il était nul. Enfin, à Vichy, Pétain buvait de l'Évian. À Évian, les Fellows buvaient du Vittel. Quant aux accidents de chemin de fer dus aux excès d'eau, c'est épouvantable. Une voie, deux trains, trois raisons de boire contre Aix-et-Ville. Boum! Et j'irai plus loin, j'affirme que même lorsqu'on ne la consomme pas, l'eau est un fléau. Dès 1590, Sully fut le premier à remarquer que les inondations, cet autre fléau, pouvaient être provoquées par un excès d'eau. Ce qui l'amena à noter dans ses mémoires des sages, labourage et pâturage, sont dans un bateau. Labourage tombe dans l'eau, qu'est-ce qui reste? Donc, trois gros et coupables, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi.